Voilà, alors on va parler du tantra ce soir. Il y a bien des formes de tantra. Il y a aussi des couleurs au tantra. Mais ce que je peux dire d'emblée, c'est que le tantra sert principalement à se libérer l'esprit. Libérer l'esprit des conditionnements, trouver une liberté qui est à l'origine peu dans notre société assez conditionnée. Je peux faire ça si on m'accepte, si ça se fait, et puis je peux ne pas faire certaines choses dont j'ai pourtant envie parce que à l'intérieur de moi il y a des voix qui me limitent, qui des choses qu'on m'a apprises et qui vont dire ne fais pas ci, mais plutôt fais ça. Ça c'est accepté, et puis ça c'est pas, ça l'est pas. Alors, je peux m'appuyer pour présenter le tantra sur une phrase qui a été donnée. C'est une conférence très très courte, hein, c'est une conférence d'une seule phrase. Il y a un maître tantrique, il y a 1000 ans, il donnait un résumé du tantra. Chaque fois qu'on lui demandait « Maître, enseigne-nous le tantra », il ne répondait que par une seule phrase et il s'arrêtait. Hein, et cette phrase c'était « Soyez détendu et naturel ». Donc ça a l'air de rien, hein, c'est une phrase quand même assez puissante. Si vous la prenez, si vous la mûrissez un petit peu, elle contient toute la liberté possible qui puisse être exprimée à un moment donné. Parce que la liberté vient du fait que je ne suis pas détendu à un moment donné. Hein, je me pose des questions, je me crispe, ou je suis conditionné. On m'a dit, alors je fais, puis je ne veux pas briser certains codes. Et puis, soyez naturel, ça parle de qu'est-ce que naturellement j'ai envie de faire. Hein, quels sont mes désirs les plus forts, les plus importants. Qu'est-ce qui me gouverne dans ma vie? Est-ce que c'est la connexion à mon être véritable ou est-ce que c'est tout l'aspect social périphérique qui va autour de ça? Donc voilà, soyez détendu et naturel, mais je ne vais pas m'arrêter là ce soir quand même, hein, même si ce maître-là il faisait ça, mais c'est une phrase qui porte beaucoup en elle-même. Et surtout dans qu'est-ce qui m'empêche au quotidien d'être détendu, qu'est-ce qui m'empêche au quotidien d'avoir un comportement naturel, réellement naturel. Hein. Il y a beaucoup de réponses et le tantra vient donner des réponses aussi à comment être plus détendu, comment être plus naturel, comment déconditionner l'esprit. Voilà, alors, dans cette conférence, qui est assez informelle, hein, je ne vais pas dire des vérités, mais je vais dire ma vérité. Hein. Ça veut dire que ne considérez pas que ce que je dis est vrai avant de l'avoir expérimenté. Hein. C'est important pour que vous fassiez votre vérité à vous. Tant que je parlerai du tantra, ce ne sera pas une expérience de tantra qu'on va vivre. Ce sera une expérience intellectuelle. Donc, je fais bien la différence. Et en même temps, c'est utile de décrire les directions. C'est utile de voir si, d'après ce qui est dit, j'ai envie d'essayer ou j'ai peur d'essayer ou j'y vais sur la pointe des pieds, etc. Donc, ce ne sont pas des vérités. Peut-être pensez-vous autrement. C'est très bien comme ça. Hein. Moi, j'ai une expérience qui me permet de dire certaines choses, mais ça reste personnel malgré tout. Dans le cours de cette présentation, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas compris par vous, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Hein. C'est bien que ça puisse être compris, parce que les choses peuvent s'enchaîner, et puis je peux m'appuyer sur des choses déjà dites pour progresser, pour continuer. Voilà, je vais vous parler d'abord de mon expérience avec le tantra et de comment j'ai commencé, qui était, parfois j'ai l'impression de me comparer à Obélix, qui est tombé dans la marmite de potions magiques. Hein. C'est un peu ce qui m'est arrivé hein, dans le tantra. n'a plus le droit à la potion parce qu'il est imbibé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a environ 13 ans, j'ai été guidé à m'inscrire à un stage de tantra, le premier de ma vie. C'est un très beau stage, dans un très beau lieu, avec 24 personnes. Tout est symétrique, le chiffre 24 est très beau aussi, parce que ça gouverne beaucoup de choses dans notre vie. Dans les 24 personnes, il y avait 12 hommes et 12 femmes, et il y avait aussi 6 couples et 12 célibataires. Donc il y avait de la symétrie dans tous les coins. C'est pas seulement ça, hein, mais c'était déjà assez impressionnant. Dans ce stage, la première chose que j'ai eu à faire lors d'une pratique d'un exercice, c'est choisir quelqu'un, hein, choisir une femme pour faire l'exercice avec elle. On me proposait de le faire avec une femme, c'était la consigne, et puis je me suis adressé à une femme. Et comme dans le tantra, on a le droit de dire oui et on a le droit de dire non, et bien cette femme a dit non. Hein. Elle a dit non. Et ce qui s'est passé d'étonnant pour moi, c'est que, alors que jusqu'à ce moment-là, j'aurais pu être très affecté par le fait qu'on me refuse, qu'on me dise non, j'aurais pu en faire une catastrophe, à ce moment-là, j'ai entendu ce nom, j'ai dit bon, bah ok, alors je vais voir quelqu'un d'autre. Et je suis allé voir quelqu'un d'autre, cette personne a dit oui. Et je n'ai pas tout de suite percuté, mais à un moment donné, dans le stage, il s'est passé un déclic. Je me suis dit, ah tiens, c'est plus une catastrophe, je peux accepter le non sans en faire quelque chose de personnel, en laissant sa liberté à l'autre. Et ce déclic-là, je n'arrive pas à expliquer vraiment pourquoi, mais il a déclenché en moi une énorme ouverture de conscience. Quelque chose de très grand, une sorte d'extase, une sorte de sentiment de liberté incroyable. Et j'étais rempli de bonheur, je peux dire. Et tout d'un coup, je me suis senti dans une liberté telle que je pensais que tout est possible. Vraiment, c'est les mots qui me sont venus. Il n'y avait plus de peur. Et parallèlement à ça, tout l'aspect féminin en moi, qui était complètement endormi à cette époque, s'est réveillé d'un coup. L'aspect féminin, c'est la sensibilité, l'espace du cœur, de l'amour, la sensibilité à la musique, la sensibilité à l'architecture, aux arts, d'une manière générale. J'étais informaticien, mais alors pur, hein, c'est-à-dire que je fonctionnais avec le binaire, c'est vrai ou c'est pas vrai, donc il n'y a rien entre les deux, hein. C'est oui ou c'est non, il n'y a pas de peut-être. Hein, dans l'informatique, c'est 0 ou 1, il n'y a pas un demi. Hein. Et lorsque j'ai commencé à vivre cette extase qui a duré plusieurs mois, qui a duré environ 2 à 3 mois, alors j'ai trouvé toute la souplesse qu'il y a entre le oui et le non, tous les peut-être, toutes les la progressivité, ça pouvait être. Quand j'entendais un non, je pouvais entendre non, mais pas comme ça, hein, ou non, pas si vite, plutôt que ah, elle a dit non, c'est non. Hein, et puis je pouvais entendre toute une gamme de peut-être. Hein, je suis entré dans l'univers des nuances, et il est vraiment féminin, hein, cet univers-là. Alors, je vais vous citer une petite anecdote, une petite blague au passage, parce qu'elle est très représentative. Elle est un petit peu tantrique, mais pas trop. Hein. C'est une bande dessinée qui décrit l'orgasme. Alors, sur la page de gauche, il y a l'orgasme féminin. Et sur la page de droite, il y a l'orgasme masculin. Et c'est une bande dessinée. Sur la page de gauche, consacrée aux femmes, il y a énormément de curseurs, de variateurs, de boutons, de réglages. La page en est pleine. Hein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis sur la page de droite, il y a un bouton on-off. Voilà, ça peut un petit peu... c'est un peu cliché, bien sûr. Hein. Les hommes ne sont pas forcément on-off tous. Mais ça peut parler de cette logique binaire qui est celle du yang, du masculin. Hein? C'est oui ou c'est non. Mais si tu as dit oui, alors c'est oui. Si tu as dit non, j'essaye pas de comprendre le non. Je le prends pour acquis. Et puis, pour moi, c'est inchangeable. C'est un non définitif. Voilà. Donc le tantra, entre autres, s'occupe de réunir ces deux-là, ces deux aspects qui semblent très séparés de l'homme et de la femme, du pôle féminin en nuance au pôle masculin qui est beaucoup plus tranché, de l'énergie yin et de l'énergie yang, hein, qui ont chacun leur rôle à jouer et qui ont aussi à se trouver l'un l'autre pour mieux se mélanger. On parle d'union mystique, hein, dans le tantra. C'est-à-dire que le yang a quelque chose à communiquer au yin, et le yin a quelque chose à communiquer au yang. Et pourquoi ? Pour être plus complet, tout simplement. Pour que nous soyons, dans notre énergie, plus complets. Voilà. Alors, je vais vous parler de cet ensemble de techniques qui s'appelle le tantra. Et je vais vous dire, en quelques mots, quelle est son origine, hein, parce que c'est pas quelque chose, même si on en parle beaucoup à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose de récent, hein, c'est quelque chose qui date au niveau de son apparition de entre 8 et 10 000 ans dans le nord de l'Inde, hein, ça c'est pour le côté historique. À l'origine du tantra, il n'y avait pas d'écrit, c'était un enseignement ou une somme d'enseignements, de préceptes. Un précepte, c'est quelque chose comme une méditation qui tient en une phrase, hein. C'est une somme de préceptes qui était le fruit d'expériences d'école du tantra, mais qui ne se transmettait pas par écrit, mais par la pratique, hein. Je voulais faire du tantra, je trouvais une école tantrique, et puis j'allais pratiquer quelques-uns des 112 préceptes qui forment le tantra de l'époque. Alors, pourquoi il n'y avait pas d'écrit ? Parce que le tantra était très secret et le tantra était très jugé, et on pourchassait les gens qui pratiquaient le tantra parce que c'était considéré comme en dehors du monde social de l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui c'est aussi un peu comme ça, même si ça s'ouvre beaucoup. Ce sont des préceptes qui sont uniquement destinés à ouvrir l'espace de conscience, à déconditionner l'esprit et à mettre plus de conscience dans le corps, les sens, l'ego, hein, c'est-à-dire le mental, pouvoir fonctionner avec ce que je ressens plutôt qu'avec le monde extérieur, hein, plutôt recentrer sur des choses qui sont au centre, hein, qui sont dans mon être véritable plutôt que dans le relationnel ou dans le monde, disons, à l'extérieur. 3 à 5 000 ans plus tard, ça a commencé à être écrit parce que ça a pu s'assouplir un petit peu au niveau de l'acceptation, et à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte que d'une pratique qui a 5000 ans d'existence, à quel point ça peut être dense. Hein, 5000 ans, c'est énorme. Et 5000 ans, lorsque cette pratique consiste seulement en 112 préceptes qui tiennent sur 3 pages à 4, ça fait que chaque précepte est extrêmement puissant, extrêmement dense. Sachant que ces préceptes, ils ont été affinés avec le temps, ils ont été développés, mais en vérité, chaque précepte a un seul but, c'est développer l'espace de conscience à son maximum. Et le maximum, selon cette discipline du tantra, c'est l'illumination. Hein, l'illumination, c'est le développement sans limite de la conscience, hein, le fait que l'énergie de vie qui est dans mon corps, dans les chakras, monte, envahisse mon esprit, aille dans ma couronne et puis se répande à l'infini. C'est-à-dire qu'il y a une connexion au tout à ce moment-là qui est réalisée. Donc le but de ces 112, mais pas des 112 dans leur totalité, de chacun des 112, est de vous amener à l'illumination. Alors, il y en a un qui est le vôtre, parce que nous sommes tous différents, et nous avons tous des voies d'accès différentes à l'illumination, parce que nous sommes des humains qui ont des portes d'entrée différentes. Le but, un de ces 112 vous mènera à l'illumination si vous le pratiquez suffisamment, c'est ce qui est dit, hein, et si vous savez le trouver, hein, et le trouver seulement en pratiquant, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre voie pour explorer le tantra que la pratique. Donc, vous pratiquez, vous choisissez celui qui vous parle le plus une fois que vous les avez lus, et puis ensuite, vous choisissez celui qui que vous avez envie. On peut dire que vous êtes guidé à pratiquer, et vous regardez s'il y a une expansion, une joie qui se développe, quelque chose qui vous donne envie d'aller plus loin, et puis vous continuez. Et puis si ce n'est pas le cas, vous en choisissez un autre. Voilà. Donc ce texte-là du Tantra, il s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra, ce qui veut dire en sanskrit technique d'expansion de la conscience. C'est tout. C'est un ensemble de techniques, hein, le Tantra. Et ce qu'on fait de nos jours, c'est la même chose, mais un petit peu moins formel. On n'est pas seulement sur 112 préceptes. Il y a des exercices qui s'appuient dessus, puis d'autres non. Et puis c'est un petit peu plus adapté à l'Occident, hein, un petit peu plus adapté à la période actuelle. Mais en vérité, ce texte est très profond, et parfois c'est facile à lire, parfois c'est difficile à lire, parfois ça semble un petit peu hermétique ou étanche. C'est à vous de voir si vous avez envie de le lire et puis de le pratiquer surtout. C'est un texte que je peux communiquer, mais il est réservé aux personnes qui souhaitent pratiquer. Alors il y a ici un livre que je ne vends pas, mais que j'ai amené juste pour vous le montrer, qui parle des quelques premiers enseignements parmi ces 112-là. Ça s'appelle le Livre des Secrets. Il a été écrit par Osho, qui est un enseignant tantrique qui est décédé aujourd'hui, il y a 30 ans, mais qui est celui qui a favorisé l'apparition du tantra en Occident, aux USA, en Europe, en Australie et ailleurs. Voilà. Et donc, il commente quelques-uns des premiers préceptes. C'est un livre qui est assez puissant parce qu'il est facile à comprendre. Bon, voilà, vous pourrez, si vous voulez, le feuilleter. Et puis, c'est facile à trouver sur Internet. Alors, Osho a introduit une forme de tantra en Occident qui inclut la dimension sexuelle, qui inclut l'énergie sexuelle. Hein. Je ne dis pas sexualité, je dis énergie sexuelle, et je vous invite à faire la différence. Et si vous ne la faites pas, je vais vous dire quelle est la différence. La sexualité, c'est la pratique de l'acte sexuel et de tout ce qui va avec. Alors que l'énergie sexuelle peut aussi décrire par le mot désir, hein, qui est l'attirance vers quelqu'un du sexe opposé, en étant conscient de l'opposition des sexes, que l'autre est ce que je ne suis pas, hein, qui est une altérité au niveau du sexe. Donc une attirance dans un désir qui s'exprime dans le premier chakra, premier et deuxième, hein, qui sont les chakras de l'énergie sexuelle. Alors, c'est la principale différence entre le tantra selon Osho, que moi j'enseigne, qui peut aussi s'appeler tantra rouge, peut-être c'est pour ça que la couverture est en rouge, je ne sais pas, et puis d'autres formes de tantra, qu'on appelle aussi tantra blanc, puis il y en a encore d'autres. Le tantra blanc étant plus méditatif, je dirais, et faisant moins appel à la dimension de l'énergie sexuelle. On peut dire aussi que le sens de progression de l'énergie dans le corps, en fonction du tantra rouge ou blanc, n'est pas le même, mais que la vocation est la même, hein, dans les deux. Dans le tantra, on commence à s'intéresser à l'énergie sexuelle pour autoriser, déconditionner, mettre de la liberté, rendre ça plus naturel, moins jugé, donner des autorisations. Et lorsque la liberté est un peu plus présente, alors l'énergie de vie peut monter un petit peu plus dans le ventre, dans le cœur, et monter, et puis jusqu'à la conscience. Ça peut me permettre d'aimer plus facilement. Ça peut me permettre aussi d'être plus conscient, plus présent. Et donc l'axe de travail que moi j'utilise, c'est corps, cœur, conscience, ou sexe, cœur, conscience, dans cet ordre-là. Hein. Peut-être c'est ce qui m'est arrivé lors de mon initiation il y a 13 ans. L'espace du cœur s'est ouvert d'un seul coup, hein, l'espace du féminin. Donc le tantra blanc, lui, il fait un peu l'inverse. Il prône une ouverture aux énergies du cosmos par la méditation, et il vise à laisser les énergies du cosmos s'intégrer en nous par la couronne, le troisième œil, et descendre et activer les énergies corporelles, les énergies du cœur, et puis pour descendre dans les chakras plus terrestres. Mais le but du tantra, dans chacun des cas, c'est, d'une manière générale, devenir libre avec nous-mêmes, hein, devenir plus conscient, devenir plus vrai, déconditionner le mental, et puis arriver à détendre ce qui nous empêche d'être libre, arriver à être vrai. Être vrai, c'est simplement résoudre, c'est ma manière de le dire, résoudre les conflits intérieurs. Alors, les conflits intérieurs, c'est, il y a des parts en moi qui disent oui, et pour le même sujet, il y a des parts en moi qui disent non. Donc, il y a un tiraillement. Hein. Par exemple, j'ai envie de faire ça, mais j'ose pas parce que j'ai peur du jugement. Ou dans mon cas, peut-être j'avais envie d'inviter quelqu'un, mais j'ai pas osé parce que j'avais peur du non à l'époque. Hein. Voilà. Et ça peut générer un conflit dedans. Et ce qui est important de signaler, ou simplement de prendre conscience, c'est que ce conflit, il va consommer de l'énergie. Hein. J'ai une certaine quantité d'énergie à l'intérieur pour vivre. Hein. Elle est très grande, mais apparemment, la plupart d'entre nous la limitons beaucoup. Comme si on avait un robinet que nous fermions pour en laisser passer une toute petite partie. Et lorsque je juge à l'intérieur, lorsque je suis des conventions qui ne sont pas justes pour moi, qui ne me respectent pas, qui font opposition à certaines choses dont j'ai envie, alors je vais perdre de l'énergie. Parce que il y a une partie de mon énergie qui va être employée à dire oui, il y a une partie aussi de mon énergie qui va être employée à dire non. Et ces deux-là vont être en opposition. C'est pour ça que Osho parle de libération de notre énergie. Et Osho dit, nous avons à l'intérieur de nous une énergie de vie qui, si on ne la limitait pas, serait de l'ampleur d'une bombe atomique, au sens propre. Mais nous apprenons dès le petit âge à limiter, à fermer le robinet de cette énergie. Et c'est beaucoup dans l'énergie sexuelle, mais pas seulement. Hein. Sachant que l'énergie sexuelle, c'est le premier barreau, le premier chakra d'une échelle qui comporte 7 barreaux, hein, 7 niveaux, et que l'énergie prend sa source dans le bassin. L'énergie sexuelle est puissante, c'est une énergie extrêmement forte, mais lorsque je la juge, lorsque je suis conditionné avec, lorsque il y a de la gêne, je pourrais vous parler pendant un quart d'heure seulement de toutes les peurs jugements et conditionnements qui sont associés à l'énergie sexuelle. Notez simplement le nombre de mots en argot qui parlent de l'énergie sexuelle ou qui parlent du sexe. Il y en a énormément, peut-être autant que ceux qui parlent de l'argent. Hein. Ça va assez ensemble. Donc, lorsque je ferme le robinet de cette énergie qui prend sa racine dans le bassin, le reste de l'énergie qui se communique à mon cœur, qui se communique à ma conscience, peut être vraiment limité. Hein. Et lorsque j'apprends à enlever un peu les jugements, j'apprends à libérer, j'apprends à retrouver cette nature non conditionnée de cette énergie, comme un enfant, hein, l'enfant par rapport à l'énergie sexuelle ou par rapport à son énergie tout court, n'est pas limité, ou est beaucoup moins limité. Regardez les petits-enfants qui courent, mais alors ils ont une énergie, c'est la mère qui court après ou le père se fatigue avant. Hein. Parfois, nous nous posons la question, mais d'où tire-t-il cette énergie? Ils ne conditionnent pas leur énergie, ils ne la jugent pas. Hein. Donc c'est beaucoup. Et ils arrivent quand même à un moment à être exténués, parce qu'ils ont aussi une masse corporelle beaucoup plus petite. Et eux, ils vont du tout joie, toute énergie, à boum, je tombe et je dors. Hein. Ou regardez un petit enfant auquel on refuse une sucette au supermarché. Il va piquer une colère, mais alors il ne va pas la retenir. Il va la piquer pendant 3 minutes ou 2 minutes. Et puis une fois qu'il l'a piqué, il va se remettre à jouer. Pourquoi ? Parce que cette énergie a été autorisée. Donc l'enfant se limite beaucoup moins et la majorité de l'éducation de l'enfant est basée sur « fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça », conditionner le mental de l'enfant. Bon, en même temps, il n'y a pas de culpabilité à faire ça, moi je l'ai fait, peut-être que vous le faites aussi. Hein. Moi je l'ai reçu de mes parents, qui l'ont reçu de leurs parents, et puis c'est toute une lignée d'ancêtres qui ont dit « pour vivre dans le social, fais ci, mais pas ça. » Or, le tantra n'est pas moral. Hein, le tantra n'établit pas des règles morales. Le tantra dit simplement « soyez un avec l'existence ». Donc, c'est zéro conflit hein, dans ce domaine-là. « Soyez un », ça veut dire « respectez votre nature, respectez vos désirs, et puis, si vous avez envie d'une chose, autorisez-vous-la ». Alors bien sûr, dans le monde social, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin de règles pour vivre, il y a besoin de feu vert pour savoir rouler, en sachant que de l'autre côté, il n'y a pas une voiture qui va venir à 100 à l'heure, s'encastrer dans la mienne. Ok, hein, pour ces conditionnements-là, je suis conditionné à voir l'orange et à freiner. D'accord. Hein. Il n'y a pas besoin de lâcher ces choses-là. Mais il y a certains conditionnements qui se sont créés, fabriqués, amplifiés au fur et à mesure des millénaires et qui ont un but, c'est celui que je reste bien sage dans mon coin, que je fasse pas trop de vagues et que je respecte l'ordre établi. Alors en soi, disons que ça a pour but de perpétuer un système, une société, et aussi certaines règles morales. Et le tantra vient vous dire, là-dedans, est-ce que vous y retrouvez, hein, là-dedans? Est-ce que vous êtes heureux avec ça? Et si ce n'est pas le cas, comment être plus heureux avec vos désirs profonds, votre être véritable, votre joie intérieure, comment la laisser s'exprimer? Votre énergie de vie, comment la laisser vous guider, le tantra vient vous dire, soyez un avec ce que l'univers veut que vous fassiez dans ce monde. Votre mission sur Terre, ou quoi que ce soit, qui est de l'ordre de votre intuition, ou de l'ordre de, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie hein? Alors, il y a ce que le monde veut de vous, et il y a ce que vous voulez de vous. Est-ce que c'est pareil, ou est-ce que c'est en conflit? Et à quoi vous donnez la priorité? Donc, dans le tantra, on essaie de déconditionner les choses inutiles. Hein, les apprentissages qui ne servent qu'à limiter l'énergie de vie. Il ne s'agit pas de tout brader, de tout lâcher, de créer un monde anarchique. Il s'agit de trouver qu'est-ce qui à l'intérieur de moi est juste, mais avec mon discernement, et qu'est-ce qui à l'intérieur de moi est simplement un apprentissage que je perpétue sans me poser la question si ça me va ou si ça ne me va pas. Donc, il s'agit, est-ce que moi je crée, est-ce que la majorité des groupes de tantra, depuis que le tantra existe, crée, ce sont des espaces d'autorisation pour agir de manière libre, aussi bien à l'intérieur qu'avec les autres. Donc, il s'agit essentiellement d'une attitude. Est-ce que je peux considérer tout ce que je pensais à l'intérieur de manière plus libre? Est-ce que je peux envisager momentanément de laisser tomber les masques? Alors, les masques, c'est la différence entre ce que je ressens dedans et ce que je montre à l'extérieur. Si je suis dans le théâtre, c'est ok, hein, c'est ok d'avoir des masques, des rôles. Si je suis dans le monde social, il y a aussi des rôles que je joue ou que le monde social m'invite à jouer. Prends le masque de ci, de ça, du fonctionnaire, de telle action culturelle, etc. Hein, il y a plein de facettes. Est-ce que je peux, dans mes instants qui me connectent à qui je suis vraiment, accepter de laisser de côté ces masques et puis de répondre à ce que je suis sans masque du tout? C'est ça que propose le tantra. C'est pour ça que la phrase initiale « Soyez détendu et naturel » est extrêmement simple. Si on la regarde sans l'analyser outre mesure, elle est d'une simplicité effarante. Il n'y a pas plus simple que ça. Et en réalité, elle est simple. Peut-être que le chemin pour retrouver cette détente et ce naturel est complexe pour la plupart des gens. Et c'est un chemin que le tantra vise à vous donner envie de parcourir afin d'arriver à l'autonomie affective. L'autonomie affective, c'est un autre mot pour dire la liberté avec moi-même et avec les autres. Donc, arrêter de dépendre du sourire de quelqu'un pour être heureux, arrêter de dépendre du oui ou du non de quelqu'un pour être heureux, conditionner son bonheur intérieur à soi-même, à comment j'appréhende les situations, plutôt que à ce que l'entourage dit, ce que la société dit, ce que la culture dit, ce que la famille, ce que la religion, enfin, de multiples facettes, disent. Et donc, ne plus dépendre de qui que ce soit, ne plus faire dépendre votre liberté et votre bonheur de qui que ce soit. Donc, ça passe par, inévitablement, vous poser les vraies questions à l'intérieur. Pas les questions que la société pose, pas les questions que tous les environnements que j'ai cités posent, mais les questions qui sont importantes pour vous. La question primordiale, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie. Alors, la plupart des humains répondront « Je veux être heureux. » Si ce n'est pas le cas ici, dans cette salle, levez la main, que je sache. Parce qu'il n'y a pas un seul humain à qui j'ai posé cette question qui m'ait déjà répondu « Moi, je ne veux pas être heureux, ça ne m'intéresse pas. » La plupart des humains veulent aussi être aimés et aimés. Parce que aimer, ça fait du bien à la partie intérieure de nous qui veut être en expansion, devenir de plus en plus vaste, avoir ce sentiment intérieur de vastitude, de connexion les uns aux autres et de connexion au monde, à l'univers, au tout. Et le tantra, à travers les pratiques et à travers sa démarche d'origine, vise à ça, l'illumination. C'est agrandir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt l'espace de liberté jusqu'à être complètement libre du monde pour rayonner qui je suis, mais une joie extatique de qui je suis. Peut-être que cette joie que moi j'ai connue il y a 13 ans, c'est ça. C'est peut-être un aperçu de ça, parce que je restais quand même humble, parce que ça s'est arrêté. Hein. Ça s'est arrêté parce que le jardin a beau être beau, les fleurs ont beau être très belles, éclatantes de couleurs, si je ne fais rien pour l'entretenir, ou si les conditionnements reviennent, c'est comme les mauvaises herbes qui repoussent hein, dans le jardin. Et donc l'esprit et les conditionnements, si je n'entretiens pas suffisamment, reviennent. Et puis il y a aussi, moi je sens que j'ai reçu une sorte de révélation. Avi, tu veux savoir ce que c'est que le tantra? Tiens, voilà un échantillon. Et je vis tout d'un coup que les limites sont beaucoup plus vastes que ce qu'elles étaient. Il n'y a plus de bornes restreintes, mais ça devient énorme. Mais c'était un apéritif. Pour moi, c'était une sorte d'apéritif. C'était aussi pour me dire, voilà ce que c'est le tantra, maintenant si tu veux l'enseigner, tu as eu un aperçu. Et vraiment, je sens que c'était initiatique au sens de j'ai été initié à la grandeur du tantra. Donc le tantra, ça ne nécessite pas forcément des dizaines d'années de pratique. Parfois, vous pouvez vivre l'essentiel en une heure. Hein. Ça peut être un... Tout d'un coup, ah mais oui, c'est ça. Oh, oh, j'avais rendez-vous avec ça, et puis dans cette heure-là, le rendez-vous s'est produit. Parce que j'étais déjà prêt. Hein. Et il semble que ce que j'ai vécu, dans ce que je vous ai décrit, c'était que j'avais franchi une succession de marches, et à la dernière marche, il y a quelque chose qui a basculé. Hein, parce que j'avais, c'est pas fait sans tout un travail quand même préparatoire. Voilà, donc le maître mot dans le tantra, c'est liberté. Hein. Est-ce que je peux regarder quelqu'un dans les yeux tout en restant libre, ou est-ce que tout de suite je vais plonger dans mes peurs, je vais être jugé, je vais être dévalorisé, ou, voilà, trouver une liberté avec dans les relations avec autrui. Ça ne peut pas se passer sans que, au travers du tantra ou d'autres disciplines, j'ai pu reconsidérer l'estime que je me porte à moi-même. Hein. Tant que j'ai une estime de moi au ras des pâquerettes, tant que je ne sais pas, je ne connais pas ma propre valeur, tant que j'ai une idée très réduite de ce que je vaux, alors je vais avoir du mal à... montrer cette valeur, à en faire la preuve, je dirais. Mais donc, quand je commence à m'autoriser certaines choses que je ne m'autorisais pas, quand je commence à autoriser mes vrais désirs, quand je commence à goûter à une liberté dans un cadre où il n'y a pas de jugement, tels que les groupes de tantra, qui sont une sorte de pépinière. Hein. La pépinière, c'est quoi? C'est protéger les jeunes pousses dans un endroit sans danger, de manière à laisser émerger les choses naturelles et à favoriser la détente. Hein. C'est deux mots-clés. Donc, quand je développe cette liberté à l'intérieur, il y a aussi la valeur que je me porte à moi-même, l'estime de moi-même, qui commence à grandir. Si je me juge, je ne peux pas en même temps trouver ma vraie valeur, parce que sans arrêt par les jugements, elle est rapetissée. Hein. Et donc, dans ces espaces de non-jugement, on apprend à retrouver sa propre valeur. Et retrouvant notre propre valeur, nous pouvons commencer à la faire rayonner hein, dans les groupes et après en dehors des groupes. Alors bien sûr, les pépinières ne sont pas le but du tantra. Hein. C'est un espace protégé, on peut dire une serre également. Lorsque je trouve ma liberté, je fais grandir ma liberté, ça se passe à l'intérieur. Il y a une attitude aussi qui commence à émerger en moi. Voir les choses différemment, me voir aussi différemment. Et donc, quand vous commencez à changer d'attitude, bah, vous sortez des groupes ou si vous êtes en couple, votre partenaire de couple s'en rendra compte que vous êtes un peu plus libre, beaucoup plus libre. Vos collègues de travail s'en rendront compte, tout d'un coup, vous n'êtes plus à attendre leur approbation, leur reconnaissance. Voilà, ça fait des vagues hein, quand vous êtes libre. Mais dans un premier temps, on s'entraîne entre nous, dans le cadre de personnes qui ont le même but, celui d'être plus vrai avec eux-mêmes, plus libre, et puis aussi d'être connecté à eux-mêmes. Hein, parce que c'est facile dans des sociétés qui sont comme la nôtre, où les sollicitations à l'extérieur sont très nombreuses, de perdre le contact avec la nature vraie, intérieure, la nature, sa véritable nature. Alors comment on le fait? Il y a plusieurs formes de structure. Il y a des stages d'initiation. En fait, ce sont des soirées. Elles sont très peu impliquantes. Peut-être que ce soir, si le temps le permet, on fera une petite pratique, mais vraiment assez soft. Hein. Donc dans ces soirées, d'abord on danse parce que lorsque on met le corps au centre de nos sensations, le mental se calme, et puis le mental c'est la source principale de peur, de limites, de conditionnement, de choses qui nous déconnectent hein, de notre nature. Donc on danse, hein, et ça peut inclure toutes les dimensions de l'être, hein, la joie, mais pas seulement, hein, on peut danser des tas de choses. Et puis ensuite, on peut être amené à faire des exercices, un exercice ou deux, dans lesquels ou lequel on peut soit parler en conscience d'un sujet. Alors parler, ça veut dire je témoigne, hein, je témoigne en vérité sur une expérience dans ma vie. Hein. Par exemple, quelle est la chose la plus intense que j'ai eu à vivre dans ma vie? Voilà, et puis j'ai quelqu'un en face de moi. Pendant 5 minutes, je vais en parler en essayant d'être vrai, hein, de rien enlever comme détail. Et puis ensuite, c'est la personne qui va me parler de son expérience. Ça permet d'entrer dans une intimité avec soi, également dans une intimité avec l'autre, qui n'est pas outre mesure impliquante. Et puis pour dans certains autres exercices, on va se bander les yeux pour donner la priorité au ressenti, donner la priorité au corps, et puis faire des exercices qui impliquent un certain contact avec d'autres, qui ne passent pas par les yeux, qui ne passent pas par le mental. Juste pour voir ce qui se passe quand les jugements sont coupés, les jugements qui passent par les yeux, et voir quelles autorisations je peux me donner lorsque il y a moi. Celui-là, il rentre dans cette case ou il ne rentre pas, celle-ci, je la choisis ou je ne la choisis pas. Non, c'est le corps qui vit l'expérience et puis qui décide de comment il va y réagir. Voilà. Alors, dans ces soirées et dans aussi les autres groupes, il y a toujours un cadre qui est posé qui vise à installer une certaine sécurité. Hein. Ce cadre-là, il y a très peu de règles, mais la première et la règle primordiale, c'est respectez-vous. C'est-à-dire que le fondement de tous les groupes, c'est vous êtes libre. Hein. Là, vous êtes libre de dire oui et vous êtes libre de dire non. Quand il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous êtes libre et vous êtes encouragé à respecter ce dont vous avez envie et vous êtes encouragé à respecter que l'autre, à un moment ou à un autre, pas envie de la même chose que vous et dit non. Donc, dans ce cadre où vous savez que votre non pourrait être respecté immédiatement, que vous êtes aussi autorisé à et invité à développer votre oui, vos vrais désirs, vous pouvez commencer à explorer un peu plus votre vraie nature. Hein, c'est le but. Il se passe souvent, hein, j'essaie d'éviter de dire des vérités, mais la constatation que je fais, c'est qu'en 3 heures de temps, dans la pièce où on pratique, il peut y avoir un approfondissement de l'intimité avec soi et avec les autres qui est assez impressionnant. Parce qu'il y a un espace d'autorisation qui se développe. Il y a aussi une confiance qui peut lier les personnes. Et ce qui peut se passer, mais ça dépend quand même de votre expérience, c'est qu'après 3 heures, vous êtes avec des gens pour la plupart inconnus, mais en même temps, vous avez l'impression d'être en famille. En famille, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des liens d'humanité ou de fraternité qui unissent. En vérité, nous sommes une famille humaine, hein, mais en même temps, nous l'oublions. Et donc, dans ces 3 heures-là, lorsqu'il y a plus de détente, lorsque, en même temps, les barrières de protection peuvent descendre un peu, vous pouvez vous laisser un peu plus toucher par les personnes humaines qui sont là pour exactement le même but que vous, être heureux, hein, être libre. Et donc, il peut naître une certaine complicité. Peut-être, j'ose émettre l'avis que peut-être c'est un peu le cas maintenant. Voilà, parce que en venant à cette conférence, vous partagez aussi cette intention qui, même si elle est invisible, est assez puissante. Hein. Les intentions même ne sont pas à négliger. Hein. La tour Eiffel est née d'une pensée, d'une intention de la construire. Hein. S'il n'y avait pas cette intention, la tour Eiffel aujourd'hui n'existerait pas. Tout ce que vous voyez dans ce monde, ce cristal, bon, lui il est naturel, alors l'intention c'est pas la mienne, mais tout ce qui est là, présent autour de nous, a été d'abord pensé, ensuite mis en parole et ensuite mis en acte. Hein, et c'est les 3 étapes de la création. Donc l'intention qui vous a amené ici est puissante et on peut dire que d'une certaine manière vous la partagez déjà entre vous, même si elle peut être à des degrés différents. Et cette intention, c'est celle qui peut avoir des ramifications, hein, dans le cours de la soirée et vous permettre de vous relier les uns aux autres par ce que je pourrais appeler les points communs. Hein. Et les points communs, c'est le fondement de votre être. Hein. Quand on enlève le social, quand on enlève le culturel, quand on enlève toutes les couches périphériques, l'école, la culture, la famille, qu'est-ce qui reste, hein? Et c'est ça, votre nature, hein, on peut dire, votre essence. Donc on peut faire le plein de carburant, hein, dans ces soirées. Le carburant, c'est aussi l'énergie de vie. Voilà, je fais un tout petit break pour vous demander si jusqu'à maintenant, ou par rapport à ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit, est-ce qu'il y a des questions ou des choses que vous avez en tête à propos du tantra?
Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez découvert quelque chose il y a 13 ans, mais que par les mauvaises habitudes qui étaient revenues, vous l'aviez reperdu. Mais qu'après, vous aviez commencé à enseigner.
Oui.
Alors, entre les deux, il manque quelque chose.
Oui, bien sûr. J'ai pas tout perdu. Hein. Ça s'est peut-être un peu dissipé. Parce que si je l'avais pas perdu, si j'avais gardé cet état initial, je ne sais pas, peut-être je serais en train de courir et de chanter dans les rues, j'aurais pas, même pas eu envie de faire des groupes, je ne sais pas. Mais je ne suis pas un être qui est sans peur, hein, mais il me semble que j'ai travaillé cette liberté au fur et à mesure des groupes que j'ai animés, auxquels j'ai participé, de manière à réduire l'emprise des peurs. Hein. Mais est-ce que j'ai peur de la mort, par exemple, qui est une peur très commune, hein, dans l'humanité? Je peux dire assurément oui, hein, mais beaucoup moins qu'à une certaine époque. Hein. Parce que j'ai développé l'aspect esprit, l'aspect connexion immatérielle, une connexion à la spiritualité, l'aspect au-delà du corps, l'aspect énergétique. Alors je peux ne pas me baser entièrement sur le corps, la naissance du corps, la vie du corps, la mort du corps. Et puis me dire que, voilà, je peux, quelque chose qui... Donc à partir de là, la peur de la mort peut diminuer son emprise. Mais elle n'est pas entièrement partie. Hein. Donc je peux dire ça de ce qui s'est passé depuis ce stage initiatique. Il y a bien des peurs qui ont diminué grandement leur emprise, mais il en reste. Hein. Je reste humble. Hein. et je me sens appelé et joyeux d'enseigner cette discipline parce que je me sens comme la mission de d'enseigner la liberté, d'enseigner comment se détacher des tas de conditionnements qui polluent le mental. Hein, polluent le... Ça répond à la question ? Ça peut être affiné, hein.
Pratiquement, en fait, vous dites que vous n'avez pas retrouvé cet état-là, mais que vous enseignez aux autres comment y arriver. Alors, comment est-ce que ça se fait que vous n'y arrivez pas ?
Alors, j'ai pas tout perdu, mais je suis arrivé à un degré de liberté qui m'a permis de me baser là-dessus pour l'enseigner. Hein. Je n'aurais pas pu imaginer d'enseigner sur une base qui n'est pas une base minimum de liberté à l'intérieur. Alors, comme je disais, la liberté, elle n'est pas absolue. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un humain sur Terre qui ait un niveau de liberté total. Hein. Ça, c'est inconcevable. Il ne serait pas dans un corps, hein, je pense. Il serait ailleurs. Donc... je suis, comme vous, fondé d'une partie de peur et d'une partie de liberté. Hein. La question, c'est quelle proportion ? Il y a, comme si c'était un gâteau, hein, est-ce qu'il y a trois quarts du gâteau qui est de la liberté et un quart de peur, ou est-ce qu'il y a trois quarts du gâteau qui est de la peur et un quart de liberté ? Si je n'avais pas eu un minimum, je dirais, cette liberté et aussi cet appel... à dire oh, ça c'est une voie de libération que j'ai vraiment envie d'incarner et d'approfondir pour moi et d'enseigner, je ne serais pas là aujourd'hui hein, devant vous. Donc oui, j'ai trouvé un très beau jardin avec des très belles fleurs et puis je suis attentif à donner des coups de bêche parce que je vois que les mauvaises herbes repoussent et c'est le cas pour tout le monde hein. Si je ne fais rien, les mauvaises herbes repoussent. Les mauvaises herbes, c'est les peurs, c'est les conditionnements, c'est les tabous, c'est les limites. Et aussi, j'ai appris à en lâcher certains définitivement. Hein. Et il y en a d'autres qui sont plus coriaces. C'est le cas pour chacun d'entre nous. Ça répond ?
Oui.
D'accord. C'est un chemin. Hein. C'est comme quelqu'un qui disait « Le bonheur n'est pas une destination, mais c'est le chemin. Hein. » C'est le chemin vers. Hein. On n'explore pas le but, mais le chemin pour y arriver. Mais en fait, on n'est jamais arrivé. La liberté, c'est pareil. C'est le chemin. Hein. C'est-à-dire l'expansion de ce qui est déjà libre. Parce qu'il y a forcément quelque chose de déjà libre, sinon vous ne seriez pas là. Hein.
Pour ajouter un petit oui chose, ce que j'ai vécu il y a 13 ans, j'ai vécu il y a 16 ans. Je pense avoir vécu de la façon dont vous l'avez décrit, j'ai vécu de la même façon. Vraiment, je me traque. Du jour au lendemain, vraiment, un truc incroyable. Et j'ai perdu assez rapidement.
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à retrouver, à redépasser ces barrières qui nous empêchent justement d'avoir l'esprit qui se rééclaircit complètement ? Parce que c'est vraiment un éclaircissement de l'esprit qu'on a à ce moment-là. On comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On comprend quasiment tout. Quoi. C'est vraiment les choses nous passent claires, limpides.
Oui, merci pour la question. Moi, je la retraduis dans mes mots. Pourquoi l'état de révélation, lorsqu'il se produit, n'est pas permanent ? Pour beaucoup de personnes, y compris des personnes actuelles qu'on appelle éclairées, illuminées, il y a une sorte de phase extatique. C'est comme si on montait la lumière d'un seul coup. Mais pour la plupart des personnes, cette phase est temporaire. Pourquoi je ne sais pas ? Et j'ai quand même une intuition de la réponse. Mon intuition, elle me dit, l'univers me donne un échantillon pour me booster dans ma mission sur Terre. Pour me dire, si tu vas jusqu'au bout de cet enseignement, voilà qu'est-ce que tu pourrais ressentir. Est-ce que maintenant tu as envie de le faire ? Et j'ai ressenti ça comme une confirmation. C'est la potion magique dont je parlais au début, Obélix. Hein ? C'est la marmite. J'ai été plongé dans la marmite, dans laquelle il n'y a pratiquement pas de peur, une liberté dans, qui se résumait par tout est possible pour moi, c'était carrément ça. Les effets de cette potion magique ont duré 3 mois. Et pourquoi ? Parce que peut-être qu'il n'y a pas eu à nouveau un stimuli. Hein, il y a eu un stimuli de la part de je ne sais pas qui ou quoi, qui a, ou peut-être c'est simplement un déclic intérieur dans mon esprit qui ne s'est pas produit à nouveau, et qui n'est pas resté. Hein, et pour, je ne sais pas pour quelle raison. peut-être que ce déclic n'a pas effacé certaines peurs qui sont revenues s'amplifier et puis amoindrir. Je n'ai pas de réponse précise. Mais pour moi, quand je dis le mot apéritif, hein, ça parle de ce qui donne envie de passer à table. C'est un aperçu de ce qui pourrait m'arriver si je développais complètement cette énergie de vie en moi. Hein. Un aperçu. C'est vraiment seulement un aperçu. C'est pour ça que c'est temporaire. Hein. C'est pour que ça me donne le goût de l'enseigner et de le développer. C'est comme si je me projetais un peu dans un futur hypothétique dans lequel j'aurais réussi à dépasser toutes les barrières énergétiques possibles.
Hein. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien de cette illumination. C'est ça que je ne comprends pas très bien. Parce qu'il y a une illumination qui est due à ça, en fait. C'est quelque chose de temporaire. Et pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin ?
À nouveau, moi je...
Est-ce qu'il y a, ce sont les pensées qui vous perturbent ?
Ouais, j'ai pas de réponse précise. Je dirais la même chose. C'est tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est clic, voir les choses autrement, mais d'une manière instantanée.
Hein?
Une vision qui change. Ah oui, c'est pas une catastrophe. Elle m'a dit non. Ce n'est plus. Je me suis rendu compte que j'étais déjà libre. C'est ça, parce que quand elle m'a dit non, c'était avant le déclic. Et quand je suis allé voir une autre femme, c'était avant le déclic. Et après, je me suis dit, ah mais c'est vrai, je suis libre. Ah, c'était énorme.
Donc c'est pas une complète liberté puisque vous retombez après.
Je ne sais pas. C'est une.
Et qu'est-ce qui vous fait retomber ? Qu'est-ce qui vous replonge ? Ce sont des pensées.
C'est quoi ? Oui, c'est le monde. C'est le monde avec la morale du monde, avec les peurs du monde, avec le conditionnement du monde, qui sont pas avec lequel je ne suis pas étanche, hein, qui agissent sur moi, même si j'ai appris à faire la part des choses. Le monde a un effet, c'est-à-dire que je vis dans un environnement qui est en grande partie influencé par la peur, et donc même si je suis débordant d'amour à un endroit ou à un autre, il y a une perméabilité.
Justement, ce qui est important, c'est de pouvoir vivre avec ce monde, on est dans ce monde, mais pouvoir rester centré.
Oui, c'est le but de ce que je propose. Hein.
C'est ce que j'imagine.
Et ce but-là, c'est un chemin. Hein. C'est-à-dire qu'être de plus en plus libre, ça peut donner une vie où vous êtes de plus en plus heureux. Hein. Ou de plus en plus, où les peurs ont de moins en moins d'emprise. À l'endroit où je me disais... Ah oui, s'il te plaît, dis-moi oui, s'il te plaît. Je te propose ça, s'il te plaît, dis-moi oui. Je ne vais plus être à genoux, je vais penser intérieurement. Si c'est bon pour toi, dis-moi oui. Si ce n'est pas bon pour toi, tu n'es pas obligé de me dire oui. Hein? Et je te laisse libre. C'est une attitude intérieure. Donc, ça se cultive. Et lorsque j'arrête de le cultiver, en effet, les effets des peurs peuvent grandir. Hein? C'est à double sens.
Comment
on cultive alors ? Dans les stages, en se donnant des autorisations. Alors, qu'est-ce qui... Oui, dans un premier temps, mais ça s'exporte. Hein, le but n'est pas de créer des espaces de parenthèse protégés et clos dans lesquels on est libre pour ensuite retourner et être emprisonné dans le reste du monde. Hein, parce que ça n'aurait aucun but, aucune utilité. Hein, sauf à vivre dans des communautés étanches. C'est pas le cas. La phrase qui pourrait décrire l'état idéal vers lequel on peut se diriger avec le tantra, c'est être dans le monde sans être du monde. C'est-à-dire, je suis témoin de toutes les inepties qui sont autour de moi, de tous les messages de peur qui sont véhiculés, et pourtant, je me dis, ah, je sais ce que c'est, ça, ça, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Et je laisse ça là où c'est. Et je suis appelé à plus regarder la télé, ou à plus écouter certaines radios, voilà, je suis appelé à me centrer sur des choses un peu plus qui me ressemblent un peu plus. Oui.
C'est un peu pour dire quand même ça, parce que moi ça m'arrive de regarder des images comme ça, quand je vois une petite fille déchiquetée, palestinienne ou autre, quand je vois ça, je n'ai pas du tout envie de rester centrée sur moi. Quand je me rends compte de l'égoïsme profond, comme si ça pense à mon petit enfant, tu vas me dire, après ça me sert d'être perturbée. Mais en même temps ça me touche, pour moi le monde il n'est pas étanche du tout. Et je suis très contente, ravie que tu dises que tu es. Certains dire retomber, mais ça c'est par générosité d'une certaine manière, parce que ça m'énerve de dire des gens qui veulent être tranquilles, rien qui manque, ça c'est franchement pas très généreux. On est dans un monde où il y a beaucoup de souffrance quand même. Si on est indifférent, on n'a pas de cœur.
Oui, alors attention, je vais tout de suite mettre une distinction. Être centré ne veut pas dire être insensible et ne veut pas dire non plus être indifférent. Être centré, ça veut dire être vrai. Je peux pleurer en étant centré, je peux être très triste en étant très centré, je peux aussi célébrer la tristesse comme une émotion qui a quelque chose à dire, qui n'est pas un état qui me décentre. Je peux être en colère et être très centré, sans entrer dans la violence qui, elle, peut me décentrer. Hein. Donc, je suis dans le monde, je vis avec le monde. S'il y a des choses à faire, je peux les faire d'une manière centrée pour qu'il y ait moins de souffrance. Il y a des actions que je peux entreprendre. Mais la différence, lorsque je ne suis pas centré, ce que je vais pouvoir agir à partir de la peur, et je vais pouvoir faire des choses... à partir de mon état émotionnel, qui ne seront pas efficaces parce qu'elles vont partir d'une émotion qui est un décentrage, un manque de liberté. Quand j'agis librement, j'agis efficacement avec moi et avec le monde. Quand j'agis par excès d'émotion, ça peut être l'agacement, ça peut être l'hystérie, ça peut être... La révolte, des choses qui me mettent hors de moi, c'est le cas de le dire, hein, qui me décentrent, je vais avoir des actions qui ne sont pas efficaces. Alors, je vais vous donner une phrase qui peut-être vous aider. Mère Teresa, ce n'est pas un exemple anodin, hein, elle répondait, elle disait, si vous organisez une manifestation contre la guerre, ne comptez pas sur moi, mais si vous marchez pour la paix, je serai des vôtres. Hein. Donc, quand est-ce que j'agis par réaction et quand est-ce que j'agis par empathie, hein? Et ces deux, ça peut être beaucoup plus efficace de rester centré, même quand il y a un tourbillon émotionnel dans le monde.
Voilà. Je crois qu'il y a une erreur par rapport à ce que tu disais. Comment ?
Michel.
Tu t'appelles Michel ? Elle disait qu'elle parlait de l'ego. Ça n'a rien à voir.
Ça a quand même
l'ego,
à voir.
L'ego, c'est on se protège et on est dans la peur, justement. Alors que quand on se recentre, c'est qu'on s'aime, c'est autre chose. Et on ne s'aime pas dans l'ego. On s'aime, on essaie de retrouver, de s'aimer, parce que bon, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Avant d'aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi.
Oui.
Je ne sais pas dans le tantra comment c'est, mais j'imagine que c'est... C'est aussi ça.
Oui, l'ego, c'est le sens prononcé de l'individualité, hein, de moi-je. Et ce moi qui est à protéger, qui est à... Je construis des barrières autour de moi, autour de mon corps, autour de plein de choses, autour de ma nature profonde aussi. L'ego est le symbole de la peur. Parce que si j'ai pas de peur, ben je vais avoir moins de barrières, je vais pouvoir plus partager à partir du cœur. Voilà. Mais l'ego n'est pas non plus un ennemi à combattre. Hein. C'est comme un chien méchant qu'il redevient sage et qu'il se couche à mes pieds parce qu'il n'a plus rien à protéger. Il a plus rien, c'est moi le maître. C'est moi qui lui dis attaque et c'est moi qui lui dis défends-moi. Hein? Donc on n'en fait pas un ennemi, mais en effet, l'espace du cœur de ma vraie nature et l'espace de l'ego sont deux mondes disjoints qui ne fonctionnent pas de la même manière du tout. Voilà, alors une des directions que je donne, c'est honorer le flux du vivant en moi, hein, honorer ce qui a envie d'être vaste, ce qui a envie de s'élargir, ce qui a envie de célébrer, ce qui a envie d'être joyeux, et nous portons tout cela à des degrés divers, mais la question est tout le temps, est-ce que je j'ouvre le robinet de ça ou est-ce que je ferme le robinet de ça? Donc l'espace d'autorisation est très important, c'est pour ça qu'il y a des groupes fermés, hein? C'est pour ça qu'on se présente, c'est pour ça que je pose un cadre avant toute chose, avant qu'on commence à pratiquer. Lorsque j'ai envie de ça et que je m'autorise ça, et je sais que mes voisins, mes voisines, tous ceux qui sont là sont venus avec la même intention, je peux respirer un peu plus là-dedans, je peux un peu plus baisser mes barrières, et je peux un peu plus m'autoriser à regarder ce qui n'est pas vivant en moi, et ce qui l'est, et donner la priorité au vivant. Alors, une des choses qui est vivante, c'est le désir, mais il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que ça, on peut aussi explorer ça. Généralement, quand vous êtes attiré par quelque chose, mais ça peut être une œuvre d'art, hein, ça peut être une statue, un tableau, un concerto, c'est de nature à vous faire crépiter de l'intérieur, à vous faire pétiller de l'intérieur, c'est comme un feu d'artifice, parce que ça vous touche profondément. Hein. C'est de l'énergie qui se met en résonance avec la vôtre, et ça vous donne l'impression d'être plus grand, plus vaste. C'est ça qu'on essaye de développer dans le tantra. Parfois c'est avec l'énergie sexuelle, mais parfois non. Hein. Parfois c'est simplement, on applique un précepte qui dit, dans la joie de retrouver un ami, fonds-toi dans ta propre joie et accède à l'illumination. Hein. On se prend dans les bras, tout simplement, sans raison valable, sans raison apparente. Et on essaie de pas juger la personne qui est dans nos bras, on la prend sans condition, hein, lui donner de cadre dans lequel entrer. Donc, honorer le flux du vivant, ça veut dire aussi regarder qu'est-ce qui m'empêche d'être vivant, et puis mettre ma conscience avec humilité sur les zones de limitation. Parce que si j'avais pas de limitation, je ne viendrais pas au groupe de tantra. Hein, il n'y a aucune raison de venir à un groupe de tantra s'il n'y a pas une part de peur, s'il n'y a pas une part de jugement, de conditionnement. Donc, lorsque je mets ma conscience, lorsque je mets mon projecteur, hein, c'est comme un rayon laser, si je mets la conscience sur une peur, en la reconnaissant, en disant, ben oui, c'est vrai. C'est vrai, là, j'ose pas. Là, j'ai envie, mais là, j'ose pas. C'est vrai, je le reconnais. Quand je fais ça, c'est de nature à diminuer l'emprise. Parce que de sombre, elle passe à éclairer, cette peur. Une peur qui est éclairée n'est plus vraiment une peur parce que je la vois en pleine lumière. Hein. Elle est montée au premier étage alors qu'elle résidait plutôt dans les limbes, à la cave. Hein. Donc, j'ai amené ma conscience. Je dis, ben, humblement, oui, je peux reconnaître que j'ai peur du rejet. Bon, ben, j'en suis là, c'est ok. Hein? C'est pas la même chose que de le refouler, de le renier, de pas l'accepter. Voilà. Oui, ben, avec la peur du rejet, je vais quand même voir quelqu'un et lui demander, est-ce que tu veux bien faire l'exercice avec moi? Avec la peur, c'est pas, j'attends qu'il n'y ait plus la peur, parce que ça n'arrive pas. Hein? Donc, il y a une part des exercices dans Tantra qui vise simplement à reconnaître l'espace de limite en nous. Et le reconnaître, c'est une des possibilités pour les laisser se dissoudre, les laisser ou faire que leur emprise devient moins grande. Parce que si je sais que tu as peur, 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 et que ça se décline pour l' ensemble du groupe, bon, ben, mes peurs commencent à devenir un peu plus relatives. Hein. Ce que l'ego défend, c'est Je suis le plus malheureux du monde et je suis unique avec cette peur. Et donc je suis à plaindre. Et je suis une victime. Et quand nous commençons à parler de nos peurs, quand nous commençons à les partager, finalement, c'est pas si terrible que ça, les peurs. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très répandues. Hein. La majorité des humains ont peur du jugement des autres. Hein. Il faut être assez libre pour être complètement détaché du jugement. Quelqu'un d'illuminé, si vous lui dites « tu es nul », il va éclater de rire, parce qu'il va, il sait très bien que c'est votre opinion, mais que ce n'est pas sa valeur, et que cette personne connaît sa valeur, et que ce n'est pas ce que vous dites qui va changer sa valeur. Hein. Mais quelqu'un qui n'est pas libre, quelqu'un qui a son estime très basse, il va se dire « peut-être bien qu'il a raison, en fait, c'est vrai, ce qu'il dit c'est vrai, je suis nul ». Et donc, je suis très influençable, hein, quand je n'ai pas un sens, je n'ai pas une liberté intérieure, quand je ne suis pas convaincu de ma propre valeur, tout d'un coup, l'opinion des autres fait ma valeur. Et là, mon humeur peut être très joyeuse quand on me porte au nu, très basse quand on me dit « t'es un idiot », et puis faire sans arrêt comme ça. Hein. Et le tantra vous apprend à arrêter de considérer que l'autre possède la vérité sur votre propre valeur, mais que vous possédez cette vérité là, mais que vous l'avez oubliée d'une certaine manière et que vous avez besoin de la réapprendre. Comment ? Ben, en la questionnant et puis en faisant des exercices. Ils sont pas là pour vous apprendre à être libre, parce qu'en vérité ce que le tantra dit, c'est que votre nature profonde, elle est libre, elle est aimante, mais qu'elle est recouverte d'une couche de voile et de jugements et de croyances qui vous disent des tas de choses fausses à propos de vous-même. Et que lorsque vous pratiquez la liberté, vous pouvez réapprendre qu'en effet, peut-être c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, hein, en effet vous êtes déjà libre. Hein. Et lorsque j'ai fait cet exercice avec cette femme, je me suis rendu compte que, ouais, je suis déjà libre. Hein, et ça a déjà changé, mais je ne m'en étais pas rendu compte.
Ce sont des exercices de quel type ?
Alors, ils sont d'une grande diversité, mais c'est une bonne question. Hein. Ça peut inclure la méditation, parce que la méditation, c'est le retour à soi par excellence. Ce n'est pas accessible à tout le monde d'emblée, bien sûr. Hein, on le fait avec progressivité. Ça peut inclure, comme j'ai dit, la danse, et puis le rapport au corps est important dans le tantra, parce que quand le mental, quand le corps est actif, le mental l'est moins. Et quand le corps est très actif, le mental l'est beaucoup moins. Et donc on donne la priorité au corps pour faire en sorte que ce qui est perçu dans le mental baisse un petit peu de volume. Donc on peut faire des exercices avec la respiration, par exemple, hein, se centrer sur une respiration qui peut être intensive ou pas intensive. On peut faire des exercices sur les sens, hein, c'est-à-dire les yeux étant fermés, je touche des choses, je touche des personnes et j'interroge seulement mes sens. Hein, et je laisse ces sensations devenir prioritaires, hein, dans mon ressenti, hein, favoriser le ressenti. Il y a des exercices aussi qui visent à nous connecter à l'énergie de vie. On peut faire ça aussi entre hommes et femmes, hein, c'est-à-dire des exercices où un homme est en face d'une femme et puis on interroge, on visite les états énergétiques que ce rapprochement peut suggérer. On peut faire des exercices qui incluent la parole. Alors la parole, c'est jamais de la discussion, et il y a toujours associé à la parole une dimension de conscience. Hein. Et quand la parole est incluse dans les exercices, c'est du témoignage, c'est-à-dire j'interroge ma vérité et je dis ma vérité. Hein. C'est jamais je pense que, mais c'est toujours moi j'ai vécu ceci, moi j'ai ressenti cela, et ça c'est de nature à faire grandir l'espace de conscience. Hein. Il y a des exercices qui incluent le fait que les hommes soient ensemble entre eux, hein, ils puissent partager des choses entre eux, que ce soit par la parole ou autrement. Il y a des exercices où les femmes sont entre elles, puis il y a des exercices en grand groupe. Voilà. Je dirais la variété des exercices est très grande. L'idée, c'est utiliser le corps comme un moyen de communication pour retrouver un accès à son intériorité. Il n'y a pas que le corps, hein, mais dans l'exercice que moi je propose, le ressenti est réellement un axe qui favorise le contact à nouveau avec l'intériorité, qui favorise que ça se développe, hein, parce que le ressenti, nous l'avons tous, mais peut-être de manière épisodique, hein, de manière où je vais remonter très vite dans le mental, à quel moment je peux rester dans le moment présent et savourer ce qui se passe, et à quel moment je vais être happé par des attentes, des frustrations, des déceptions, ou des souvenirs, des mémoires. Voilà. Tout ça, lorsque le mental est déconditionné, il y a un petit peu moins, enfin plus ou moins, partiellement ou un peu plus entièrement, il y a un peu moins de tentation à s'échapper du ressenti, à s'échapper du moment présent. Ça répond à la question ? Alors, on peut aussi, dans certaines formes de tantra, utiliser la sensualité. La sensualité, elle est dans notre monde entourée d'une multitude de murailles. Hein. La première, c'est l'intimité du couple. La seconde, c'est la peur de montrer le corps ou de toucher un autre corps que le sien ou celui d'une intimité très protégée dans le couple. Alors, dans le tantra, on essaye de retrouver dans un cadre de personnes qui ont envie d'explorer plus de liberté, qu'est-ce qui est naturel avec l'énergie sexuelle, qu'est-ce qui est détendu avec l'énergie sexuelle, qu'est-ce qui est joyeux avec l'énergie sexuelle, qu'est-ce qui est ludique avec l'énergie sexuelle, sans pour autant avoir en tête un enjeu ou aller chercher un aboutissement quelconque. Là encore, comme pour le bonheur, l'exploration, c'est le chemin, hein, le chemin de cette énergie qui est par nature une énergie de vie. Hein. L'énergie vitale, l'énergie sexuelle, c'est des termes très proches. Rappelez-vous que le sexe préside à toute vie, hein, sous plein d'aspects. Hein. D'abord, vous êtes né du sexe d'une femme, ensuite, vous êtes né du désir d'un homme et du désir d'une femme, et ensuite, cette énergie-là, elle est le fondement, le premier chakra, hein, le fondement, ce qu'on appelle le chakra racine, celui où notre énergie issue de la Terre prend vraiment matière et puis commence à évoluer dans notre corps. Donc, Osho disait à propos de l'énergie sexuelle, et c'est une phrase sur laquelle je peux me baser souvent, il disait « Le sexe est un début, mais non une fin, mais si vous ratez le début, vous raterez aussi la fin. Hein » Ça veut dire que vous ne pouvez pas être vraiment libre dans tous les plans de votre corps si la relation à votre énergie sexuelle n'est pas libre. Hein, ça se comprend. S'il y a une multitude de peurs, de honte, de jugement, de culpabilité par rapport à votre corps, qui représente l'énergie sexuelle aussi, par rapport à votre sexe, alors c'est de nature à polluer tout le reste, votre capacité à aimer, votre capacité à être conscient. Donc on fait le ménage, c'est-à-dire que on essaye de changer de regard, hein, là-dessus, parce que c'est un regard extrêmement conditionné, le regard sur cette énergie-là. Donc voilà, on essaie d'oublier des choses, on essaie de désapprendre des choses. On essaye d'être plus naturel, mais on se rappelle que c'est le début, mais pas la fin. C'est-à-dire que c'est un moyen, mais pas un but. Hein, l'énergie sexuelle, c'est comment redevenir simple avec ça. Comment enlever les couches et les couches et les couches de jugement avec ça, qui n'ont pas d'autre but que de limiter. Alors, parce que c'est une énergie très puissante, elle a une chape de plomb très lourde. Hein. Si l'énergie sexuelle, enfin, c'est, moi c'est une intuition, mais je crois qu'Auchaud disait quelque chose de similaire, si l'énergie sexuelle sur Terre était complètement libérée, plus aucune structure sociale ne pourrait exister. Parce qu'elle est tellement puissante. Elle est tellement... Si elle était libre, je ne dis pas débridée, je ne dis pas compulsive, hein, je dis libre, simplement autorisée comme elle est naturellement, alors plus aucune façon de limiter l'humain ne tiendrait la route.
Ça deviendra animal. Hein.
Quoi? Ou pas, ou pas.
Ça deviendra animal. Hein.
Et l'amour, c'est pas...
Ça ne deviendrait pas animal s'il y a la dimension consciente. Hein, et le tantra vise à mettre la conscience partout, et à commencer par l'énergie sexuelle. D'accord? Donc, on peut être dans l'énergie sexuelle avec compulsivité, c'est-à-dire sans conscience, en répondant à des désirs compulsifs, animaux, hein, des désirs qui ne sont pas du tout réfléchis ni conscientisés. Et on peut être dans l'énergie sexuelle avec beaucoup d'amour, avec une considération très élevée pour le partage de cette énergie avec l'autre. Et ça fait toute la différence. Et rappelez-vous, ce que j'ai dit en entrée, le tantra ne s'adresse qu'à la conscience. Hein. Il utilise l'énergie corporelle et l'énergie sexuelle comme des moyens pour développer la conscience. L'énergie sexuelle n'est pas le but du tantra. C'est vrai que je le dis et j'insiste un peu là-dessus parce que dans notre société, surtout occidentale, il y a des amalgames avec le tantra et la sexualité. Hein. J'ai l'habitude de commencer mes groupes en disant « Ce n'est pas un groupe pour rencontrer quelqu'un et ce n'est pas un groupe sur la sexualité. » Si vous êtes venu pour une de ces deux choses-là, vous pouvez partir tout de suite parce que vous ne serez pas encouragé dans ces voies-là, et ça ne sera pas l'objet de ce groupe. Le tantra peut vous amener à rencontrer quelqu'un, mais indirectement, parce que vous devenez libre. Et parce qu'une personne libre, c'est forcément attirant. Pourquoi c'est attirant? Parce que moi, quand je vois quelqu'un de libre, ça me rappelle que j'ai envie aussi d'être libre. Hein. C'est comme d'être heureux. Hein. Tout le monde a envie d'être libre. Personne n'a envie de rester en prison hein, toute sa vie. Donc, il n'y a jamais de sexualité directe dans les groupes de tantra. Et puis, on y va avec une grande progressivité. Et ce que vous faites à tout moment, c'est parce que vous avez choisi de le faire. Hein, c'est parce que vous avez dit oui à une proposition. Et je ne peux pas enseigner la liberté ou enseigner des pratiques qui se reposent dessus sans vous donner entièrement la liberté de dire non aussi à ces pratiques. Hein. Si c'est trop tôt pour vous, hein, ou si ce n'est pas présenté comme vous avez envie que ça soit. Donc il y a toujours une possibilité de progressivité. Et généralement, les soirées du jeudi soir ou certaines du vendredi soir... sont conçus dans une progressivité dans laquelle on peut s'apprivoiser les uns avec les autres, on peut se détendre, on peut se dire après tout, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas essayer, puisque l'enjeu principal dans le tantra, c'est pas l'autre, mais vous, hein, ça fait partie du cadre que je pose. L'enjeu, c'est d'être libre. Hein. Alors bien sûr, il y a des personnes autour de vous, et il y a un groupe, et le groupe soutient, mais l'enjeu, c'est pas l'autre qui est en face de vous. L'autre enfin, qui est en face de vous, il vous sert à devenir vous-même plus libre. Hein. En quoi il vous sert? Ben, c'est comme une étincelle et vous êtes le feu d'artifice. Hein. Donc l'étincelle, elle a un rôle, mais minime. Hein. Au niveau de l'énergie, il est très petit. Hein, et le feu d'artifice, c'est une grande déflagration. Donc vous êtes à la fois l'étincelle pour l'autre et le feu d'artifice pour vous. Et l'enjeu, c'est votre feu d'artifice. Hein. Parfois, le feu d'artifice, c'est un baril de poudre, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'autre, c'est toujours celui qui met le feu aux poudres. Hein. S'il déclenche votre colère, bah, voilà, c'est, il a joué son rôle d'étincelle, mais pas plus. C'est pour ça que je dis, dans les groupes de tantra, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu avec quelqu'un. Il y a un enjeu avec vous. Et le tantra, c'est une démarche individuelle, y compris si vous venez en couple. C'est une démarche individuelle, ça peut se partager après dans le couple. Mais il n'y a pas de... Le tantra ne s'adresse pas au couple par nature, parce qu'il s'adresse à la conscience et qu'il n'y a pas de conscience de couple. Mais si vous êtes en couple et que vous faites du tantra, si vous le faites seul et que vous développez votre liberté, vous revenez à la maison rayonnant, tout d'un coup beaucoup plus libre, et vous abordez votre partenaire comme ça, il ou elle va se dire, tiens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ça fait des vagues. La liberté ne peut pas rester confinée en vous. Et donc dans votre couple, vous allez faire bénéficier à l'autre de votre liberté. Parfois ça peut aussi révéler les failles, révéler que ça colle pas et qu'à ce moment-là, avec la liberté que vous n'aviez pas, vous pouvez voir des choses. C'était déjà là, en fait, c'est comme un révélateur. Ça arrive aussi comme un amplificateur. Mais dans les couples où l'amour est le fondement, la liberté que vous développez va soit donner à l'autre envie d'en faire, ou soit avoir des répercussions indirectes. Parce que quand vous n'êtes plus dépendant de la reconnaissance de l'autre, ben, l'amour circule beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de « je t'aime si », c'est plus naturel. Donc il y en a un qui joue le rôle de locomotive, c'est celui qui est le plus motivé. Il le fait peut-être pour lui tout seul ou pour elle tout seul, et puis ensuite, rentrer à la maison, il ou elle peut donner envie ou peut laisser les vagues se communiquer à l'autre. Mais on ne fait pas du tantra, il n'y a pas le tantra pour l'entité couple. C'est chacun individuellement, même s'il est dans l'entité couple. Et je fais aussi des groupes de tantra qui s'adressent au couple. Mais c'est toujours avec l'optique de devenir plus libre en soi, d'élever sa conscience, son regard vis-à-vis de l'autre. C'est toujours quelque chose de personnel qui se passe. Ça n'existe pas, cette notion de conscience de couple. C'est la conscience d'un individu.
J'ai une question par rapport à l'énergie sexuelle, parce que vous avez dit que c'est l'expérience pour quelque chose qui est différent de moi.
Oui.
Et moi, je trouve que c'est un grand sujet d'actualité en ce moment, mais moi, ça m'intéresse depuis longtemps, le fait que une énergie sexuelle qui est dirigée vers quelqu'un du même sexe, j'avais entendu dire qu'un chaman avait proposé à un couple de les soigner, entre guillemets, parce que ce serait un dérèglement de cette énergie-là.
Un couple quoi, homosexuel ?
Oui.
Oui.
Mais du coup, par rapport à l'énergie sexuelle, c'est la même énergie qui est canalisée différemment ou c'est...
Alors c'est un vaste sujet, je peux essayer de répondre avec ce que je ressens. L'énergie sexuelle et l'énergie vitale, c'est une seule énergie, c'est l'énergie de vie. Il se trouve que dans un corps d'homme ou dans un corps de femme, elle est canalisée, polarisée différemment, comme si ça faisait une sorte de serpent. Et quand il va par là, il est plus, quand il va par là, il est moins. Et la femme a des chakras plus-moins, et l'homme a des chakras plus-moins, qui ne sont pas les mêmes. C'est une des raisons pour lesquelles il y a une attirance comme magnétique entre un homme et une femme. Lorsqu'il y a des couples homosexuels, il y a aussi ça. Parce qu'il y a un des partenaires de ce couple-là qui présente plus d'énergie yin, c'est-à-dire féminine, et l'autre qui présente plus d'énergie yang. Donc c'est quand même un couple yin-yang. D'accord, parce que on peut naître avec, nous naissons tous avec une composante masculine et féminine qui s'entremêlent, qui sont ensemble. En tant que femme, tu as du yang, c'est-à-dire tu as un pouvoir de décision. Voilà, il y en a qui sont sous-exprimés, d'autres surexprimés. Et donc, il n'y a pas de distinction entre homosexuel et pas homosexuel pour moi. Parce que deux personnes qui sont complètement dans où le yin est majoritaire, il y a fort à parier qu'elles ne vont pas s'attirer réellement. Mais il y a cette polarité qui dit tu es différent de moi, donc je perçois, quel que soit ton sexe physique, je perçois une énergie opposée à la mienne ou complémentaire à la mienne et j'ai envie de me rapprocher d'elle. Hein, ça répond à la question pour ce sujet-là. Voilà, et puis après, on est tous en partie yin et en partie yang, qu'on soit homme ou femme, et puis les hommes vont se rapprocher des femmes parce qu'ils ont à apprendre à développer le yin, qui est ce qui est, entre guillemets, moins développé chez eux à la naissance, sans travail de conscience, sans travail personnel, sans psychothérapie, etc. Et les femmes vont se rapprocher des hommes parce que elles ont à être initiées avec le yang, qui est la structure, trancher les choses, décider, gérer, voilà, dans lesquelles, naturellement, à la naissance, elles sont moins dotées, mais elles l'ont quand même. Hein. Une femme sait gérer. Parfois, il y a des femmes qui sont même exagérément yang. Hein. Il n'y a pas de vérité. Mais on peut dire que, chez la femme, c'est l'espace du cœur qui est actif, par nature, il n'y a pas besoin de l'activer, il est déjà activé, pour la majorité des femmes toujours. Pour les hommes, c'est l'espace du sexe qui est naturellement actif. Il n'y a pas besoin de le réveiller, il est déjà prêt. Hein. C'est pour ça que je parle de plus et de moins. Et chaque chakra, quand vous alternez, vous avez un plus, un moins, un plus, un moins. Ce qui fait que les deux serpents d'énergie qu'on a en nous, c'est comme de la dualité. Hein. Ça va d'un côté, ça va de l'autre, ça va d'un côté, ça va de l'autre. Et on essaye de réunir ça dans le couple mystique du tantra. De manière à quoi ? À faire un avec l'existence, c'est-à-dire à aller dans l'indifférencié, à plus aller dans les polarités, homme-femme, sexe, cœur, etc., mais aller dans l'indifférencié.
Donc par exemple, chez les hommes, le premier chakra, il serait plus et les femmes moins ?
Voilà, c'est ça.
Et après, ça alterne ?
Ça alterne, oui. Le cœur est moins chez l'homme et il est plus chez la femme. Le plus n'étant pas une notion de valeur, hein, c'est comme l'électricité ou le pôle plus d'un aimant. Hein, c'est l'émetteur. Le cœur émet chez la femme et reçoit chez l'homme. Le sexe émet chez l'homme et reçoit, même physiquement, chez la femme. Donc, on s'attire parce qu'on est complémentaire et puis on va essayer d'instruire en nous, de développer en nous ce qui est beaucoup plus flagrant chez l'autre hein, et qui est moins flagrant chez nous. Et donc, un homme est un maître et une femme un disciple dans toute l'énergie yang. Un homme est un disciple et une femme est un maître dans tout ce qui est énergie yin. C'est pour ça qu'on se donne des enseignements dans notre vie. Des fois, ça prend la forme de grosses claques, mais c'est aussi des enseignements. Hein, je veux plus de toi et je pars en claquant la porte. Ça peut être aussi l'occasion de révélations majeures. Alors, on arrive presque au bout de la conférence.
Je pense qu'on a une petite 20, 25, 30 minutes. Voilà.
D'accord. Donc, ça peut être un espace de questions-réponses. Il y a peut-être des sujets que je n'ai pas abordés. Le tantra, jeunes adultes, bon, c'est pas très différent, mais j'évite de mélanger, entre guillemets, des personnes de 20 ans, des personnes de 60 ans. Ça ne change pas la fondation du tantra qui est la même. Ça vise à détendre un peu plus une tranche d'âge parce qu'elle est entourée de personnes qui leur ressemblent ou au niveau culturel, c'est beaucoup plus similaire. Oui.
Peut-on faire proposer un exercice ?
Oui, oui, c'est prévu. C'est prévu. Voilà, je termine juste avec quelques phrases. Il y aura, je prévois aussi du tantra pour couple qui vise à retrouver le sacré dans la relation, à changer de vision sur son partenaire et à agrandir sa conscience en s'aidant de l'autre, hein, dans la sexualité sacrée. Cette fois, on parle de sexualité. Hein, et donc là, il y a un livre que je vends, mais je le vends à un prix coûtant parce que c'est un vrai trésor. Faire l'amour de manière divine, celui-là, plus il sera lu sur terre et mieux ça ira. Donc j'en ai quelques-uns ici, si vous en désirez. Voilà. Je crois que... Est-ce qu'il y a une question importante avant qu'on passe à une partie plus exercice, expérience? Non, ça va. Alors, je vais vous proposer un exercice court dans lequel l'invitation, ce sera de vous bander les yeux. Hein. Alors comme je dis tout le temps, il n'y a pas d'enjeu, et deuxièmement, vous pouvez dire non. Il s'agira dans cet exercice, qui est relativement peu impliquant, d'aller rencontrer des doigts d'autres personnes. Il n'y a que les doigts qui vont se toucher. Et de vous centrer sur l'espace sensoriel des doigts. Donc ça va être une série de conversations entre des doigts. Il peut y avoir quelques doigts ensemble, mais ça peut être plusieurs mains qui sont impliquées dans ces échanges. Et quelle que soit la personne à qui ces doigts appartiennent, ça reste la même règle, converser, converser avec les doigts. Donc la règle, c'est de laisser les doigts non pliés, droits, pour ne pas accrocher. Il n'y a pas besoin d'accrocher d'autres doigts ni d'autres personnes. Et donc les doigts se touchent, se frôlent, voilà, on fait ce qu'on veut, mais on garde la main ouverte de cette manière-là. Et puis essayer d'oublier qu'au bout de ces doigts, il y a des personnes physiques. Simplement, centrez-vous sur l'aspect sensoriel de la chose. Et donc, j'ai des bandeaux ici. C'est plus efficace de se bander les yeux que de les fermer, parce qu'il y a toujours une tentation, même brièvement, d'ouvrir les yeux pour voir qui c'est. Donc là, ça peut vous permettre de vous détendre. Il n'y a pas d'enjeu. Et puis, s'il y a du temps, je ferai une petite progressivité dont je vous réserve la surprise. Sachez qu'à tout moment, si vous voulez arrêter, vous pouvez vous arrêter. Il n'y a jamais d'impératif. Des questions par rapport à cet exercice ?
Ça se passe debout ?
Oui, ça se passe debout. On met les chaises de côté. On est tous au centre. Et puis, en vérité, c'est difficile de toucher les doigts directement. Donc, vous allez toucher une épaule. Et à ce moment-là, vous descendez jusqu'à arriver au doigt. Une fois au doigt, vous restez sur cette zone du corps.
Et on reste combien de temps ? Enfin, je dirais, est-ce qu'il y a...
Je vais guider.
Ah, d'accord.
Je vais guider. Il y aura une petite musique aussi. Okay. C'est juste pour vous amener dans un espace sensoriel qui n'est pas issu du mental et voir qu'est-ce que ça peut donner comme conscience dans ce moment-là. Quelle est la conscience qui est en vous lorsqu'elle n'est pas dans les pensées et dans le jugement ? Donc, essayez de ne pas juger, essayez de pas vous poser la question, mais qui c'est ? Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une... Tiens, c'est poilu, c'est pas poilu. Voilà. Essayez d'oublier ces choses-là. La règle, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est de vous à vous que ça se passe, peu importe à qui sont ces doigts. D'accord ? Donc, si vous voulez bien, on met toutes les chaises de côté, on les plie.